Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, coup de projecteur dans Escale sur la célébration le 24 octobre de la journée des Nations Unies à Paris, au siège de l'UNESCO. Une célébration qui correspond à la naissance effective de l'organisation mondiale il y a 72 ans.
Excellencies, ladies and gentlemen, friends, happy United Nations Day. Clap for the United Nations, huh?
La commémoration de la journée du 24 octobre a donc été marquée cette année par une série d'événements à New York et à travers le monde. Ainsi, à Paris, au siège de l'UNESCO, 5 agences des Nations Unies ont animé une journée de présentation et de rencontres sur le thème « Le futur que nous voulons, 17 objectifs pour transformer notre monde ». Des ateliers destinés principalement aux étudiants. Pour en savoir plus, l'équipe des journalistes en herbe d'Eco Radio du collège Vincent Van Gogh de Blénod-les-Ponts-à-Mousson a interviewé Fabienne Pompé, elle est chargée de communication pour la France et Monaco au Centre régional d'information des Nations Unies à Bruxelles.
Bonjour, nous sommes avec Madame Pompé. Madame Pompé, vous êtes chargée de la communication du secrétariat général des Nations Unies en France.
Tous les 24 octobre a lieu la journée des Nations Unies. Pourquoi cette journée a-t-elle été créée ?
Alors, le 24 octobre 1947, c'est la date de l'adoption de la Charte des Nations Unies. C'est en fait la naissance de l'organisation. Vous savez que c'est une organisation qui est née après la guerre pour justement éviter une autre guerre mondiale. C'était un petit peu, à l'époque, on pourrait dire le plus jamais ça. Aujourd'hui, les Nations Unies, c'est 193 États. C'est-à-dire que c'est une organisation qui permet à tous, à tous les pays, tous les gouvernements, qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils soient gouvernements amis ou pas, de pouvoir régulièrement s'asseoir ensemble à l'Assemblée générale pour discuter des grands problèmes du monde. C'est ce qu'on appelle une vision multilatérale des problèmes, à partir de l'idée que les grands problèmes de ce monde, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, environnementaux, qu'ils soient de la lutte contre la pauvreté, pour instaurer la paix, etc., ne peuvent pas être réglés au niveau national, mais ont beaucoup plus de chances d'être réglés si on prend les problèmes tous ensemble à bras-le-corps et qu'on en discute entre pays.
Et quel est le thème de cette journée ?
Alors, cette journée, nous avons choisi cette année de parler des objectifs de développement durable. Alors, est-ce que vous en avez entendu parler de ces objectifs de développement durable ?
Oui,
en histoire
géo. Un petit peu ? Est-ce que je peux peut-être expliquer un petit peu ce que c'est ?
Bah, oui.
Oui ? Alors, c'est 17 objectifs que donc les 193 États membres ont adoptés en septembre 2015. Et ces objectifs, ils ont quelque chose de très particulier. Vous savez, avant, on avait des objectifs, ce qu'on appelait les objectifs de développement du millénaire, qui ont couvert la période de l'an 2000 à 2015. Et ces objectifs, c'était essentiellement résoudre les problèmes de pauvreté extrême, d'accès aux soins de santé, d'accès à l'eau, en fait, les besoins de base. Et c'était, si on veut caricaturer un peu, un programme qui voulait améliorer les qualités de vie des populations du Sud, souvent des pays en développement, avec des fonds venus du Nord. Au bout de 15 ans, on s'est aperçu que bon, ce programme avait obtenu d'excellents résultats dans certains domaines, moins dans d'autres, mais surtout qu'il était limité par le fait que c'était un programme Nord-Sud. Aujourd'hui, on s'est dit, on a réfléchi, et ce n'est pas que l'ONU, c'est l'ONU avec les États, mais aussi avec des ONG, avec la société civile, avec des jeunes, se sont consultés et ont dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'on a fini, entre guillemets, cette période de 15 ans, pour compléter ces objectifs et faire que nous ayons une vie meilleure pour tous. Parce qu'on s'est dit, voilà, si on veut résoudre, par exemple, les problèmes liés au réchauffement climatique, ça ne peut pas être un objectif tout seul. On doit en même temps faire une agriculture plus propre, on doit en même temps avoir une mobilité plus propre, c'est-à-dire des transports plus propres, un mode de consommation plus raisonné. Donc tout ça est lié. Si on veut avoir, par exemple, une meilleure égalité homme-femme, il faut aussi améliorer l'éducation. Tout ça va ensemble. Donc les deux choses importantes, c'est qu'ils sont universels et qu'ils sont liés les uns aux autres. Et la chose la plus importante, c'est que ces 17 objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD, c'est leur initiale, c'est pas quelque chose qui va être fait uniquement par les gouvernements. C'est quelque chose dans lequel chacun peut s'impliquer. Alors on peut s'impliquer juste en décidant de manger moins de viande, en décidant d'éteindre l'électricité quand on sort d'une pièce, de prendre son vélo au lieu de prendre le bus, de prendre le bus plutôt que sa voiture, de prendre le train plutôt que l'avion, de choisir à chaque fois des modes de déplacement responsables, de faire attention à ne pas gaspiller. Ça, c'est les premiers premiers gestes, tout le monde peut les faire. Après, quand on grandit, on peut aussi s'engager. On peut décider de travailler avec une association pour aider des personnes en difficulté à se réinsérer. Il y a des millions de choses qu'on peut faire. Et ces objectifs de développement durable, ils ne seront jamais atteints si tout le monde ne donne pas un peu de soi et ne s'engage pas pour qu'ils réussissent. Voilà, c'est pour ça qu'il me semblait important qu'on parle aux jeunes, à l'occasion de cette journée des Nations Unies, de ces objectifs de développement durable.
Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
C'était un grand plaisir. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Top Chef, c'est parti là.
Cette année, pour pousser les candidats à l'excellence, les chefs seront...
Premier des invités de la journée des Nations Unies à l'UNESCO, Adèle Dakar, un jeune chef cuisinier qui s'est fait connaître en participant à l'émission Top Chef. Originaire de Vichy, il va prochainement ouvrir son restaurant à Clermont-Ferrand. Un jeune chef qui déteste le gaspillage alimentaire, comme il l'a confié à Florence Westgaard.
Je m'appelle Adèle Dakar, je suis jeune chef cuisinier, j'ai 30 ans, je suis basé en France. Et donc moi j'ai suivi un cursus scolaire classique où j'ai fait BEP, BAC et BTS en France. Et j'ai travaillé dans les restaurants étoilés au Guide Michelin pendant de nombreuses années. Et donc du coup, ensuite ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de participer à l'émission Top Chef et de pouvoir créer mon projet d'ouvrir mon restaurant à Clermont-Ferrand en Auvergne. Et dans mon travail à l'heure actuelle, tous les jours, on est évidemment en contact avec la nourriture et cela me touche énormément qu'il y ait beaucoup de personnes dans le monde entier qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau où je suis, j'ai envie de véhiculer des valeurs du partage autour de la solidarité et faire prendre conscience au public, on va dire, que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir bien manger. Et moi, je suis issu d'une famille nombreuse où j'ai appris dès le plus jeune âge, entre guillemets, à partager avec mes frères et mes sœurs et donc du coup, l'envie de m'engager avec le PAM à l'heure actuelle, ça a été, on va dire, de façon naturelle. Et quand ils m'ont appelé, j'étais très excité d'être choisi. Et à l'heure actuelle, je suis mobilisé, je suis à fond sur ce projet.
Bien sûr, donc vous êtes impliqué avec donc le PAM. Comment pensez-vous, peut-on lutter justement contre la faim ?
Eh ben alors, lutter contre la faim, pour moi, je trouve que ça va être un boulot monstre parce qu'il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que déjà, si on peut sensibiliser les personnes à commencer par beaucoup moins de gaspillage alimentaire, et pour pouvoir ensuite véhiculer des messages pour partager, on va dire, notre repas et aider les pays qui sont, on va dire, sous-développés, qui n'ont pas beaucoup de nourriture et qu'on voit que la France ou d'autres pays qui en ont plein gâchent énormément, je trouve ça dommage. Donc on va commencer par ça, sensibiliser les gens à faire beaucoup moins de gaspillage alimentaire.
No time to pretend, dust up, try again.
Autre intervenant de la journée, Aymeric Marmora, directeur général de l'entreprise sociale Inactus, qui a pour mission, sinon ambition, de développer l'esprit d'entreprendre et l'engagement des jeunes au service de la société. Des propos recueillis par Florence Westgaard.
Enactus est une entreprise sociale qui est membre d'un réseau qui s'appelle Enactus Worldwide, qui est une ONG présente dans 36 pays. Et notre vocation est vraiment de pouvoir développer l'esprit d'entreprendre et l'engagement des jeunes au service de la société. Et pour cela, nous proposons des programmes pédagogiques qui sont dédiés à l'innovation et à l'entrepreneuriat social auprès des jeunes, vraiment pour les accompagner à monter des projets d'entrepreneuriat social. Et on met toujours nos programmes en partenariat avec le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement.
D'accord. Et donc, comment vous engagez justement les jeunes à participer d'une façon intéressante pour qu'ils puissent s'engager ?
Alors, on a deux programmes, un programme qui est dédié aux étudiants et un programme qui est dédié aux lycéens. Et les points communs sont, la démarche est assez simple. La première chose, c'est vraiment d'amener les jeunes à regarder autour d'eux, d'identifier sur leur territoire, dans leur quartier, dans leur établissement, dans leur ville, d'identifier quels sont les enjeux de société qui les motivent ou qui les interpellent à agir. Et donc, on utilise notamment les objectifs du développement durable des Nations Unies comme un cadre pédagogique pour qu'ils puissent identifier qu'est-ce qu'ils ont envie de changer autour d'eux. Ensuite, la démarche, c'est de les amener en équipe. On croit beaucoup au travail d'équipe et à la force de l'équipe, on va les amener à identifier et à imaginer, concevoir, réaliser un produit ou un service qui va justement répondre à un de ces enjeux du développement durable. Et tout notre rôle après va être de les accompagner avec nos partenaires entreprises, nos partenaires de l'enseignement, d'accompagner ces jeunes à passer à l'action, à passer de l'idée au projet et au prototype et à l'action, et de mettre en œuvre sur le terrain leurs solutions.
Donc vous parlez justement de mise en œuvre sur le terrain, donc vous avez quelques exemples ?
Oui, tout à fait. Alors, on a par exemple des jeunes à Paris qui ont été très sensibles à la thématique des réfugiés. Et ils se sont posé la question, comment faire pour justement favoriser l'accueil et l'intégration, l'accueil de ces réfugiés dans notre pays. Et après avoir rencontré plusieurs réfugiés, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de multiples talents. Et notamment, certains étaient dans leur pays cuisiniers, en tout cas, qui vraiment avaient une richesse entre leurs mains, qui étaient pouvoir cuisiner leurs plats et des repas préférés. Donc, ils ont commencé à mettre en place des ateliers culinaires organisés par les réfugiés pour les habitants des environs. Et puis aujourd'hui, ils sont allés un peu plus loin parce qu'ils sont en train d'accompagner ces réfugiés à ouvrir leur restaurant et avoir justement toute la réglementation nécessaire pour pouvoir ouvrir leur restaurant. Et donc, c'est un projet qui s'appelle Le Baba. On a une autre étudiante qui, elle, était sensible au fait que parfois, on a des étudiants qui sont malades, de longue durée, victimes d'un cancer, par exemple. Ils ont souvent une double peine. La première, c'est déjà la maladie. Mais la deuxième, c'est qu'ils souvent ils sont obligés d'arrêter leurs études. Et donc du coup, cette étudiante, elle s'appelle le projet Caméléon, a mis en place un service de suivi à distance en milieu hospitalier des études pour permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études. Et puis, point innovant, c'est qu'elle organise à présent les concours ou les partiels en milieu hospitalier, vraiment pour pouvoir permettre aux étudiants de poursuivre leurs études, de passer leurs examens et d'éviter de rater leur année.
Enfin, dernier témoignage recueilli par Florence Westgaard, celui du dessinateur Yak, entendez Yassine Aït Kassi, créateur d'Elix, un petit bonhomme libre et joyeux qui apporte chaque jour sa bonne humeur sur les réseaux sociaux.
Elix, c'est en fait l'aboutissement d'un certain nombre d'années de simplification à l'extrême de la notion même du personnage. C'est-à-dire que la plupart des personnages naissent de la caractérisation. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est particulier ? Elix, c'est exactement l'inverse. Il est né de la décaractérisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut enlever pour qu'il devienne le plus commun ? Mais pas commun dans le sens sans intérêt, dans le sens quels sont les points communs à chaque habitant de la planète, qu'est-ce qui fait qu'on peut se reconnaître dans une figure commune. Il est devenu en 2015 ambassadeur virtuel pour les Nations Unies, donc c'était au moment des 70 ans de l'organisation où il a fait un tour du monde en 70 jours, et en même temps, c'était le début des objectifs de développement durable, dont il s'est saisi tout de suite, en fait, dès la publication, avec cette version maintenant des illustrations qui, à la fois, tentent de leur donner un visage extrêmement accessible, quelque chose de très, très organique, qui s'adresse à tout le monde et qui, en même temps, le rend très compréhensible, presque ludique, et qui donne, dans sa forme, l'espoir d'y parvenir, puisque c'est maintenant un travail de chaque jour, de tous les membres de l'organisation et de tous les défenseurs, les partisans de ces objectifs.
Donc, ces objectifs de développement durable, il y en a bien sûr 17. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont si important de nos jours et pour Elix?
En fait, ils répondent à quelque chose de l'époque qui est ce changement d'échelle. On commence, du fait de l'évolution de nos technologies, de la vitesse de l'information, à voir le monde non plus comme une succession d'États qui cohabitent, mais comme un ensemble qui est engagé sur un certain nombre de questions de manière irréversible et de façon solidaire. Je pense par exemple à la question du climat, des questions comme ça qui sont totalement universelles. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est justement cette notion de plan. On a un plan universel qui s'adresse aussi bien aux États qu'aux individus, en passant par les sociétés, les collectivités, les régions. Donc tout un chacun, quelle que soit sa fonction, sa place dans la société, est concerné, qu'il est totalement transversal. C'est-à-dire, c'est pas un plan de spécialistes, on va parler que du climat, on va parler que de la pauvreté ou de l'égalité homme-femme. C'est l'ensemble, avec cette vision holistique, qui fait que en se préoccupant de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, on lutte également contre le chauffement climatique, parce que tout est relié, tout est connecté. Et donc c'est ce changement d'échelle, cette vision globale, le slogan d'Elix, c'est « We are one », nous ne formons qu'un, en fait, avec notre environnement, avec la Terre. C'est vraiment un cadeau de génération qui est fait là à l'ensemble des participants de ce plan, avec une échéance qui finalement est assez courte, puisque 2030, c'est demain. Ma fille aura 18 ans et j'ai envie de lui transmettre, j'ai envie que, effectivement, les enfants qui auront 18 ans à ce moment-là puissent se saisir du monde qui leur appartient, qui est celui qu'on leur lègue au 21e siècle.
Voilà, fin de ce magazine Escale, préparé et présenté par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Florence Westgaard et d'Hélène Pompé. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.